Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Alors on va ouvrir notre Bible et je vous propose que nous fassions, après quelques préambules, petit préambule, eh bien, une lecture qui va nous situer dans un texte assez original finalement. Et nous allons pouvoir eh bien, méditer en effet cette parole parce que c'est vraiment de l'activité hebdomadaire. Hein. Je voudrais vous parler, je l'ai dit tout à l'heure, de la Sainte Cène. Peut-être d'une manière assez particulière, parce que c'est une institution que le Seigneur a laissée à son Église. Et c'est véritablement un point essentiel dans la vie des enfants de Dieu, des chrétiens. Alors, ne soyez pas surpris de certaines choses qui sont, eh bien, souvent tues. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui est essentiel pour le développement de notre vie et surtout notre équilibre de notre foi. Alors, j'aimerais simplement, en avant-propos, souligner ceci. La Sainte Cène est un acte répétitif tous les dimanches. Alors, c'est vrai qu'il y a différentes communautés qui le font une fois par mois, une fois par an. Mais il nous est dit dans les lettres de l'apôtre Paul qu'à chaque fois que nous nous réunissons, et particulièrement un jour dans la semaine, hein, eh bien de nous souvenir du sacrifice de Jésus, parce que c'est bien cela le sujet. Un acte donc répétitif, et Jésus dira ses paroles, « Faites ceci en mémoire de moi, d'aucun autre, mais en mémoire de moi. Et sachez, rappelez-vous, que toutes les fois que vous faites, eh bien, cet acte de prendre cette sainte cène, vous annoncez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Alors nous avons naturellement le sacrifice de Jésus expiatoire pour le monde entier. Et nous annonçons le retour de Jésus. Ça, c'est important, parce que ça doit être quelque chose qui doit nous marquer et que nous ne fassions pas ça par habitude et par routine. C'est très humain, la routine, et de refaire les choses, parce que, bon, voilà, on est ensemble, parce qu'il y a la communion fraternelle, parce que la parole de Dieu nous le dit. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on peut vite s'y habituer et passer à côté de l'essentiel, de ce que le Seigneur veut nous donner à travers le repas de Sainte-Cène. Parce qu'il y a là, figurez-vous, et je le rappelle à dessein, une promesse de renouvellement de vie. Nous mangeons tous les jours et nous nous renouvelons dans nos forces. Ça, on le sait, dans le commun, finalement, et bien de l'existence. Mais il y a quelque chose autour de cette table. Que je vais parler de table, et nous allons donner des explications, un renouvellement et une bénédiction, qui va que, parfois même, parce que nous l'avons vu par expérience, que le malade peut être guéri à travers la prise du pain et du vin. Eh oui, parce qu'on parle de l'imposition des mains dans nos églises, on parle de telle et telle, finalement, eh bien, telle chose, mais une chose qui est certaine, c'est qu'il peut y avoir, au-delà de tout cela, eh bien, des bénédictions spécifiques. Et elle représente, c'est un symbole, la Sainte Cène, hein, c'est pas comme l'Eucharistie dans d'autres communautés, d'autres églises, mais c'est en quelque sorte un symbole, la mémoire de notre union avec le Seigneur, et ça pourrait se résumer de cette manière, la Sainte Cène exprime l'amour de Dieu pour nous et l'amour de nous, notre amour pour lui. C'est le renouvellement, nous avons parlé tout à l'heure, de la foi. Une foi vivante, pas une croyance dans toutes sortes de choses, mais la foi est l'espérance de son retour. On l'a dit tout à l'heure. Alors ça, c'est l'avant-propos, naturellement. Et j'aimerais justement, parce que c'est une étude ce matin, alors pardonnez-moi pour ceux qui viennent pour les premières fois, c'est pas compliqué, hein, je vais essayer d'être le plus simple possible, mais c'est une connaissance de la Bible. Et ça, c'est quelque chose d'important, et je crois que, finalement, la Sainte-Seine peut être annoncée à tout le monde, quoi qu'il en soit. Peut-être plus précisément lorsque nous avons été baptisés, en tant qu'adultes. Mais je pense que c'est quelque chose, donc, qui souligne de grandes vérités que Jésus nous a enseignées, et que nous avons à véritablement être sages pour ne pas oublier cela. Hein? Parce que on va aborder des sujets un petit peu particuliers. Alors, je vous propose que nous lisions maintenant, ceci dit, en effet, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, il est dit ceci. Alors, c'est peut-être pas un texte que nous méditons souvent, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Il est dit ceci, chapitre 6, 2 Corinthiens 6, verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Eh oui, là nous allons approfondir un peu la situation. Le symbole de la Sainte-Seine, c'est la lumière. Mais il y a des altérations à la pratique, finalement, de cet acte si important, et cette altération, c'est les ténèbres. Voilà. Alors, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Alors, Bélial, c'est tout simplement, là, en quelque sorte, Satan, le diable. Alors, c'est vrai que ça prend des proportions assez particulières. Dieu, Christ, et ensuite, Bélial, Satan. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle, celui qui croit et celui qui ne croit pas? Il y a des gens, quelque part, qui sont tout à fait non pratiquants, incroyants, et qui, dans certaines communautés, prennent la Sainte-Seine une fois, deux fois dans leur vie, et puis à certaines circonstances. Attention, il y a des choses à préciser. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Eh oui. Quand on regarde l'Ancien Testament, quelle charge, finalement, de cette table, en quelque sorte. Alors, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? La Sainte-Seine, c'est le temple. Où là, nous rencontrons Jésus dans le temple. Et Jésus vient faire sa demeure dans notre corps, dans notre cœur. Je vais un peu plus loin. Parce que nous avons cet encouragement. Dieu dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi, « Sortez du milieu d'eux. » Il s'agit du monde. Et même le monde christianisé, qui n'a rien à voir avec Jésus. Hein, parce qu'il est fait avec, non pas la foi spirituelle, la foi du Saint-Esprit, mais il est fait à travers des traditions, toutes sortes de choses. « Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Et puis nous allons tourner une autre page dans 1 Corinthiens, chapitre 10 et verset 14. Et là, ça prend d'autres proportions. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14. « C'est pourquoi Paul dit à ses chrétiens de Corinthe, « Fuyez l'idolâtrie. » Alors maintenant, on va aller un petit peu plus en avant. J'ai donné un titre à ce message ce matin, « La table outragée ». Alors c'est vrai que c'est assez violent. Hein. La table bénie, la table qui apporte une bénédiction, une libération, la table qui guérit, on peut le dire, hein, psychologiquement ou physiquement. Mais il y a naturellement, à travers les mots que nous avons lus, toujours, cet équilibre qui se fait. Et c'est à travers ces textes que nous avons lus, c'est un objet de comparaison. Il y a d'un côté Dieu, il y a d'autre côté, eh bien, les ténèbres. Il y a finalement, eh bien, ce que Jésus nous a enseigné, et puis ce que les hommes ont enseigné, et qui n'a plus rien à voir avec la parole de Dieu, avec l'Écriture sainte. La table du Seigneur, le mot table revient plusieurs fois. Il y a la table du Seigneur qui est une table d'honneur, une table qui honore Dieu. Et puis il y a la table des idoles. Il est parlé la table du diable. La table outragée. Et cet outrage, c'est les hommes qui le font. Par rapport à la grandeur du sacrifice de Jésus, où il nous dit « Souvenez-vous de moi ». Et tout ce que vous faites, vous souvenez, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Il y a une profondeur dans tout ça. Prendre la Sainte Cène indignement. Vous l'entendez quelquefois tous les dimanches, où celui qui est préposé à lire le texte d'avant Sainte Cène, de présentation de la Sainte Cène, le rappelle ce texte. C'est Jésus qui l'a dit. Celui qui prendra part à la Cène indignement, qu'il s'examine lui-même et qu'il rectifie les choses. Parce que Dieu n'est pas là pour nous juger, il est là pour nous transformer dans la mesure où nous-mêmes, nous nous examinons nous-mêmes. Alors ça, c'est encore un autre point. Donc, prendre la Sainte Cène indignement, ou prendre la Sainte Cène dans la pureté de conscience et pleine connaissance de l'acte, et cela pour la gloire de Dieu. L'Église vit parce que finalement, eh bien, elle se nourrit spirituellement de ses paroles et autour du pain et du vin. La question qui se pose maintenant serait la suivante. Quelle communion et avec qui je communie? Est-ce que je peux le faire distraitement? Est-ce que je peux le faire avec les souillures de l'humanité? Et là, on va en parler. Avec, finalement, cette désinvolture pour faire comme tout le monde, par conformisme, parce que les autres me regardent, et nous prenons ensemble la Sainte Cène. Ou alors, est-ce que je le fais vraiment de tout cœur, dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance? C'est pour ça que j'ai cité un petit peu les termes tout à l'heure. Il y a, en effet, des défaillances dans cet acte régulier. C'est pour ça qu'il est tellement régulier que finalement, eh bien, on s'attend que ben, quand on vient dans un culte, il y aura des chants, il y aura finalement de la louange, de l'adoration, il y aura des dons spirituels, il y aura également la prédication, et puis il y aura la Sainte Cène. Si un dimanche, vous venez et puis que eh ben, la Sainte Cène n'est pas prête ou elle n'est pas faite, alors à ce moment-là, vous allez réagir. Parce que vous avez tellement, et nous avons tellement l'habitude que les choses se fassent ainsi. Mais alors maintenant, il faut réfléchir. Il faut savoir pourquoi Jésus a parlé de cette manière. Parce qu'il y a un grand danger, même au sein de la prise de la Sainte Cène, de l'élévation, en effet de la coupe et du pain, alors à ce moment-là, eh bien, nous pouvons tomber très facilement dans l'idolâtrie. C'est pourquoi il y a ce balancement entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Le temple qui glorifie Jésus, et puis le temple qui, quelque part, eh bien, sert à l'autre. Et vous savez qui je veux dire. Hein. L'autre, c'est l'adversaire. Donc, c'est l'idolâtrie, le problème d'idolâtrie. Et nous voyons que souvent les choses sont faites par conformisme, et ils sont faits également dans l'imitation. Et une imitation, quand c'est faux, dévoyée. C'est-à-dire que le diable s'est arrangé à neutraliser cet acte que nous prenons régulièrement pour en faire, eh bien, un outrage. C'est le texte qui le dit, hein, c'est pas moi. Hein. Et c'est important, quand on est chrétien, on est conséquent. Bien que nous restons des pécheurs, mais une chose qui est certaine, et ça je voudrais le dire, vous qui entendez la parole, même, il vous arrive de pécher quelquefois gravement, mais à partir du moment où je me présente devant la Sainte Cène, et que je prends conscience que ma conscience me le dit, et que je me présente devant Dieu en lui demandant pardon, mais Dieu va nous pardonner. Il n'y a aucun problème, il y en a qui se privent de la Sainte Cène parce qu'ils ont fait des bêtises dans la semaine, ou ils ont fait des bêtises dans leur vie, mais Dieu nous pardonne quand on reconnaît le fait que nous avons marché à côté du chemin. Il n'y a aucun problème. Dieu est un Dieu de pardon. Maintenant, Le contraire, c'est de le faire dans une inconscience où je ne fais plus la différence entre le bien et le mal, où j'ai pu faire du mal, mais quelque part, je l'ai mis derrière moi et puis peu importe. Alors à ce moment-là, ça prend d'autres proportions, bien entendu. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse, quand il parlait au peuple d'Israël après les commandements, les 10 commandements et puis les autres, il est dit à un moment donné, pour Israël, tu n'imiteras pas ces nations dont tu vas prendre la place. Parce que c'est le problème d'imiter le monde. Et nous n'avons pas, même sur le plan du fait religieux, nous n'avons pas à imiter même d'autres religions, même des religions chrétiennes. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je voudrais creuser ce matin, pour dire que c'est quelque chose d'important. Dieu est un Dieu qui nous accueille. Je vous accueillerai, nous l'avons lu tout à l'heure. Vous serez mes fils, moi je suis votre père. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Mais attention de ne pas sortir du chemin. Et le seul moyen pour rester véritablement dans l'équilibre, c'est de rester sur la parole de Dieu et non pas les théologies, non pas les philosophies religieuses, non pas ce que les hommes enseignent. Moi, ce que je fais, c'est que je prends tout simplement la parole de Dieu parce que Dieu m'a appelé à ça, tout simplement. Et je vous ramène à la parole de Dieu et surtout aux paroles de Jésus. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices sanglants d'animaux. Oui. Alors c'était peut-être pour les plus riches, parce qu'il y avait aussi une graduation, c'est comme les impôts, ça c'est pareil. Hein. Plus vous êtes riche, plus vous allez payer d'impôts. Alors, mais c'était le sacrifice, c'était... Alors il y en a qui offraient des bœufs, hein, qui offraient des gros animaux, d'autres qui étaient beaucoup plus modestes, hein, offraient un mouton. Et puis il y en a, les plus pauvres offraient des pigeons par exemple. Donc ça avait un sacrifice d'animaux. Aujourd'hui nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament, où le seul sacrifice éternel... C'est la mort de Jésus qui s'est fait l'agneau de Dieu pour être immolé à notre place. Ça, c'est la parole. On le comprend. Donc, sacrifice sanglant, d'expiation pour le pardon des péchés, parce que c'est lié à cela. Et c'était dédié naturellement à Dieu. L'Israélite faisait ce sacrifice. Ça lui coûtait finalement eh bien, la somme. Oui, mais il le faisait pour le Seigneur. Il le faisait de tout son cœur. Et à travers ça, le sang... Alors que le sang du pécheur devait couler, eh bien c'est un animal qui remplaçait le pécheur en quelque sorte. Et là c'est Jésus qui nous a remplacés, mais le monde entier. Voilà. Et puis il y avait des sacrifices. Il y avait des sacrifices et il y en a encore aujourd'hui dans certaines religions, même dans certaines religions pseudo-chrétiennes, sur certains continents, il y a ceux qui étaient dédiés aux divinités païennes. Et nous allons en parler. Les relations qui mettaient les hommes qui faisaient ces sacrifices-là, eh bien, en relation avec le monde occulte. Le monde qui, finalement, eh bien, là n'a pas lieu d'être dans l'esprit des enfants. Donc, la table outragée. Et nous commençons. Donc, il y avait un code d'explication, je vous l'ai donné. Et Jésus le dira, hein, dès l'entrée de son ministère, dès les premières pages des évangiles, il dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Vous voulez que je vous donne une... On ne peut pas être assis entre deux chaises. Soit on est chrétien, on le reste, on le demeure dans la fidélité de l'amour pour le Seigneur, et on le fait grandir. On fait grandir finalement cette fidélité. Ou alors, eh bien, on va prendre un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Il y a des gens, des chrétiens qui papillotent de tous les côtés, qui batifolent, et je pense qu'ils n'apprennent rien, bien qu'ils ont le sentiment eh bien là, de nourrir leur vie spirituelle. On ne peut servir deux maîtres à la fois, c'est ce que nous dit Jésus. Et nous allons examiner le contexte de cet enseignement. Il était question de viande sacrifiée, parce qu'on faisait le sacrifice d'animaux dans l'Ancien Testament, hein, bien sûr. Et nous voyons que c'était, à tort, sacrifié aux idoles. Voilà, hein, il y avait toutes sortes de choses. C'est la mythologie grecque, c'est la mythologie probablement romaine, je ne sais plus. Et puis c'est encore des mythologies, on pourrait dire, hein, et puis des doctrines qui sont encore en cours aujourd'hui. On ne tue plus un homme maintenant. Parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait même les Israélites sacrifiaient leurs fils et leurs filles. Hein. Ça allait loin, hein, c'est... Alors, je me joue aujourd'hui, ils seraient pulvérisés, ces gens-là. Hein. Mais à raison, hein, naturellement. Donc, sacrifice, les sacrifices de l'Antiquité. Et aujourd'hui, on peut parler, moi je vous ai parlé d'une table outragée, mais je voudrais maintenant avancer un peu plus, et je voudrais vous entretenir sur les néo-autels d'adoration idolâtre. La table des démons, on ne peut pas sacrifier à la fois à la table de Christ et à la table de Bélial. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Ça va, vous me suivez? Parce que c'est assez difficile à enseigner, hein, je reconnais, parce que c'est quand même enfoui dans le temps tout ça. Et puis c'est quand même là, eh bien, en quelque sorte, la confrontation de l'Ancien Testament qui n'a plus cours aujourd'hui pour nous les chrétiens, mais nous sommes rentrés dans la nouvelle dimension, et c'est ce que Paul enseigne aux hommes et aux femmes de son temps. Et ça vaut pour nous aujourd'hui, la table des démons. Alors, il y a naturellement derrière tout ça, si nous ne restons pas sur la parole, une exploitation de l'ignorance et de la crédulité. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'abord, je commencerai par une chose, parce que c'est les paroles de Jésus. Il nous dit de nous garder de mammon. Alors, si nous sommes dans une société où on peut parler de mammon sans dire le mot, eh ben, c'est bien la société dans laquelle on est. Voilà. C'est l'adoration, parce que je voudrais y mettre ce mot à chaque fois, de l'argent, de l'or et de tout ce qui a une valeur sur cette terre pour l'homme, c'est l'univers des jeux et de la cupidité, où les gens deviennent des idolâtres. On ouvre de plus en plus des casinos. Moi, j'ai rien contre. Mais une chose, on ouvre de plus en plus des casinos un peu partout maintenant, hein, en France. Parce que bon, voilà, il y a une cupidité telle, et par-delà casino, vous entretenez le mot... de tous les jeux, tout ce qui peut finalement eh bien, se rapprocher à tout ça. L'argent est l'univers, finalement, de cela. Alors, l'apôtre Paul le dira, et je le dis aussi, je le rappelle, contentez-vous de ce que vous avez, et bénissez le Seigneur pour ce que vous avez, parce que c'est le meilleur moyen pour être, non pas dans l'insatisfaction, mais dans un certain confort, parce que Dieu ne nous laissera pas, comme il l'a fait, comme il y a eu tant d'exemples dans la Bible, eh bien Dieu l'a fait, pour nous donner des exemples qui ne manquera pas. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et certains pensent que l'argent, c'est un dieu. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie, hein, par les temps qui courent. les dettes et toutes sortes de choses. Mais les gens se rendent malheureux dans le monde. En raison, finalement, eh bien, des prises de position, des décisions qu'ils ont prises, avec des dettes et des crédits qui cassent les couples. Voilà. Ça casse les familles et toutes sortes de choses parce que on a été beaucoup plus loin. Alors je veux bien croire que les gens du monde, c'est ce qui leur arrive. Mais faisons attention qu'en tant que chrétiens, nous n'allons pas non plus nous-mêmes adorer l'argent comme étant le substitut de Dieu, que nous n'avons plus besoin de Dieu, mais que finalement nous pouvons nous contenter eh bien, de ces valeurs qui ne sont pas éternelles, hein, je tiens à le dire, hein, de toute façon. Il y a un autre point qui marque notre monde, c'est aussi une table outragé, c'est le monde de la musique. Ah oui. Vous savez que dans les derniers temps, dans la Babylone prostituée du livre de l'Apocalypse, au chapitre 18, il nous est dit qu'il n'y aura plus un bruit sur la terre. Mais les gens vont tomber fous, hein. Plus un bruit. Et je pense, vous allez dire que je suis vieux jeu, mais non. Parce que quand on voit les conséquences, quand on voit la démolition des personnalités, et particulièrement chez les jeunes, avec des musiques démentielles. Ouais. Alors, il y a des belles musiques, hein. Il y en a qui ont des messages, il y a toutes sortes de choses. Mais il existe aussi le contraire. Et c'est terrible parce que, je cite la musique, et particulièrement ce qui n'existait pas il y a une cinquantaine d'années, et nous en voyons finalement les effets dans les médias, etc., etc. Il y en a partout dans le monde entier. C'est la musique, le métal, le rock, hein, infernal, c'est moi qui l'ai rajouté. Et avec ce qu'on appelle les Hellfest, où là vous avez, non pas quelques centaines, mais des milliers de jeunes qui se rassemblent et à travers de la consommation de substances illicites, à travers des gestes, je ne vais pas vous les faire, hein, à travers finalement des comportements sensuels ou sexuelle, si vous voulez. On se dit, mais... Parce que là, on est en train de sortir, finalement, de la raison. Et quand on voit, finalement, que tout cela, eh bien, s'est alimenté pour se battre, pour faire tomber l'ordre, je me dis, il y a quand même quelque chose qui ne va plus dans notre monde. Et moi, je pense qu'avec ce genre de choses, cette table qui est tout tragée, c'est-à-dire la vérité, et puis ce qui est normal, on se dit, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Où les gens ne sont plus... Ils ne savent plus. Et cet amour libre. Où là, eh bien, ils ne savent plus ce que c'est d'aimer. Et après, lorsqu'ils ont peut-être trouvé l'âme sœur, ça ne peut pas tenir, parce qu'il y a eu tellement de démultiplication de tout ça, que les gens sont complètement déphasés. Hein. Métal, rock, tout ce que vous voulez. La frénésie endiablée. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, il est bien dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 10, pardon, et verset 14, « Nous avons cette parole, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Et ça, c'est une idolâtrie à laquelle, eh bien, on sert le diable. Excusez-moi. Vous savez, moi, j'avais une vingtaine d'années et j'ai vu ces choses-là parce que j'ai vécu dans un milieu sans y toucher. Dieu m'avait gardé pour ce que je suis aujourd'hui. Et vraiment, c'était un miracle. Dans un contexte où la Hollande était un des pays les plus libérés à l'époque, hein, en Europe. Hein. Dieu m'a gardé. Et aujourd'hui, quand je vois qu'il y a parfois une appétence de certains, des jeunes en général, mais de certains de nos jeunes qui commencent à glisser vers cela, en pensant qu'ils ont peut-être là, eh bien... Un appel, non. D'abord, pour avoir un appel de ce genre-là, c'est autre chose même que d'un simple appel de pasteur dans une église. Je peux vous dire qu'il y a des confrontations avec les puissances mauvaises. Et combien de fois nous avons vu certains qui voulaient toucher à cela, ils étaient embarqués complètement de l'autre côté. On ne joue pas avec l'adversaire. Parce qu'il y a des limites dans tout ça. Quand on voit que c'est complètement diabolique, c'est complètement dément, c'est complètement dévissé, on peut dire. Hein. Il y a des choses qu'il faut faire attention. Et il faut le dire. Parce que ceux qui ne sont pas prévenus, ils vont tomber dans le piège. Je parlerai également de ces tables outragées. Eh bien, des pseudos, c'est-à-dire des fausses spiritualités à travers des religions. Des religions diverses, où là on vénère des objets ou des personnages qui auraient vécu, qui sont morts aujourd'hui, occultes, assistés avec des fausses doctrines antichrétiennes. Eh oui, aujourd'hui le mélange il est là, faut pas se faire d'illusions. Le mélange est là. Il y a le sport et la politique. Nous avons tous été, c'est pas un réquisitoire que je suis en train de faire, mais c'est une constatation, nous avons tous été, c'est vrai, enthousiasmés peut-être, même ébahis, des Jeux Olympiques à Paris. Formidable. Moi je dis autant pour les sportifs valides que ceux qui ne l'étaient pas, c'était encore autre chose. Je me dis, mais l'homme est capable, mentalement, physiquement, il est capable de faire des grandes choses. Ça c'est sûr. Et là il n'y a rien à dire. Parce que c'est le choix de chacun. Mais quand on voit, à travers, finalement, tout ce que... Il n'y a pas eu de débordement, heureusement. Mais quand on voit que ça rend les gens fous, parlons du football, par exemple. Voilà, je regarde de temps en temps, ça peut être très intéressant, parce que c'est un jeu. Mais quand on voit que c'est une source pour boire, pour se battre, pour casser la tête aux policiers... pour mettre le bazar, pour brûler des voitures, des choses comme ça, il y a quelque chose là qui ne va plus. Qui ne va plus. Alors ça fait partie du monde. Et quelquefois, des braves gens, en disant, on ne voulait pas le faire, parce que quand ils sont pris et qu'ils sont en garde à vue, en disant, on ne voulait pas le faire, mais on l'a fait quand même. Parce que ça chauffe. Parce que ça fait une émulation, mais qui vient d'ailleurs. Qui n'est pas seulement le propre, finalement, de la personne. Parce qu'il y a la conformité. Il y a l'entraînement de tout cela. toutes les passions addictives qui font partie de notre société d'aujourd'hui. La sensualité. Ah ouais. Alors, le gouvernement est en train de mettre un petit frein là. On y va à travers les médias, l'informatique, etc., etc. Mais il n'y a pas qu'en France, hein. L'homosexualité, la pédosexualité, enfin bon, toutes sortes de choses. Ce sont des constatations. Faut pas avoir peur des mots. Moi, je ne suis pas là pour condamner. Mais je suis là pour dire attention, parce que l'Église, elle est menacée d'être emportée dans cette vague, dans ce tsunami. Alors, on parlait de sensualité. La vitesse et l'ivresse. Bon, ça s'est calmé depuis quelque temps, depuis qu'il n'y a plus le 30 à l'heure sur les autoroutes. 130, excusez-moi. Non, le 30 à l'heure, mais je l'ai fait exprès. Hein? Mais quand même, on voit encore, là on vient de faire quelques kilomètres avec Myriam, mais quand on voit le comportement de certains, je me dis, mais ils sont fous ces gens-là, en moto ou en auto. Et je me dis, mais ils font aucun cas de leur propre vie et puis de la vie des autres. Hein. Il y a des risques. Hein. Oh là là, c'est terrible. Hein. Alors, on parle des stupéfiants. Il n'y en a jamais eu autant. Hein. Toutes les villes sont contaminées, même les petites villes et même les villages aujourd'hui. Alors, si vous voulez, allez faire un tour sur la plage de Saint-Nazaire, vous allez peut-être retrouver un gros paquet comme ça. C'est un cadeau de Noël. Hein. Eh oui, c'est ça. Hein. On voit que tout ça, ça submerge. Hein. Toutes les mélanges qui peuvent exister pour confondre finalement la vérité avec l'erreur. Il y en a un, il s'appelle Jésus-Christ, et l'autre, il s'appelle Satan, Bélial. Et il travaille, hein. Il travaille parce qu'il a très peu de temps. Et il sait très bien ce qu'il fait pour essayer de... Parce que c'est mortifère, hein. Et ça se fait d'une manière très subtile, comme si c'était finalement, eh bien, une société nouvelle qui apparaissait, qui va apparaître, ou qui est déjà en place, pour confondre les gens et les amener à mourir. S'ils ne meurent pas physiquement... À un moment ou à un autre, ils vont mourir spirituellement. Parce qu'ils sont vides et ils cherchent à se remplir de passions, de toutes sortes de choses, qui les, quelquefois, un peu les calment. Il y a tous ces bilans qui nous sont donnés, des états de lieux, où on se dit, ben voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut aller ici, dans le monde, qui se déshumanise de plus en plus. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de violence. Et, tout simplement... amène les gens à la servitude, donc au malheur. Et le monde est de plus en plus malheureux. Quand on voit, hélas, et ça touche les familles, et ça touche même les familles chrétiennes, le problème de division des familles. Je pense au divorce. Divorce, c'est dit deux. Donc chacun de son côté. Normalement, ça doit être uni. Mais là, on s'aperçoit que c'est le contraire, de plus en plus. Où là, les statistiques nous montrent que dans une classe d'enfants, de 30 enfants par exemple, hein, dans l'éducation, eh bien, il y en a déjà plus de la moitié, 60%, qui sont des parents, qui sont deux parents divisés, séparés, tout simplement. Réalité du malheur de notre monde, alors on peut toujours faire ce que l'on veut. Et je crois quand même les gouvernements, quels qu'ils soient, enfin, les gouvernements crédibles, hein, je parle, hein, ben, essaient de faire. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort. Et on s'aperçoit que nos mondes, il y a cette angoisse qui monte, parce qu'on s'aperçoit que, de toute façon, c'est de plus en plus difficile. Je voudrais vous citer une référence. Il est dit que celui qui détruit par le mensonge, oui, celui qui détruit par le mensonge, verra sa vie détruite par la vérité. Parce qu'à un moment ou à un autre, la vérité, nous l'avons, mais si nous voulons la nier et l'ignorer, mais à un moment donné, la vérité apparaîtra. Il n'y aura plus que la vérité. Hein. Le mensonge n'existera plus, hein, de l'autre côté. Et même pour ceux qui seront devant le grand trône blanc, peut-être que ce sera l'ultime, eh bien, comment pourrait-on dire, verdict. La table outragée, c'est ce que nous sommes en train de voir. Le grand dilemme par le fait de communion illicite et interdite. Et dans l'Ancien Testament, il y avait les viandes sacrifiées aux idoles. Et ils pensaient, parce que c'était... la loi, mais une loi détournée, une table, finalement, eh bien, outragée, que quelque part, eh bien, ils offraient ça non plus à Dieu, même les Israélites, hein, ils l'offraient, eh bien, à des puissances ténébreuses, tout simplement. L'amour de Dieu, ouais. Sa vérité nous a été révélée d'en haut, et elle est venue jusqu'ici à travers un livre qui s'appelle la Bible. Et elle nous a révélé la vérité qu'il existait deux formes, le pur et l'impur. Oui, le pur et l'impur. Les idoles de l'imagination. Parce qu'on peut être gentil, bien, il n'y a pas de problème. Hein. Mais si, dans l'intérieur de nous-mêmes, nous cultivons certaines choses, et je crois que nous avons besoin de revenir illico presto, surtout pour des chrétiens, et c'est là où nous pouvons prendre des délivrances. Lorsque notre imagination fonctionne, lorsque nous sommes dans des rêves, dans des rêveries, dans toutes sortes de choses qui nous amènent à dévier, alors il faut bien se remettre en mémoire qu'il y a un seul Dieu qui est vivant. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Il est réel. Et le reste relève de chimères de la pensée humaine et de fausses croyances telles que les superstitions, l'occultisme et la divination. Ces trois chapitres que nous avons lus, enfin ces trois schémas qui nous sont proposés, eh bien, c'est la réalité de notre monde d'aujourd'hui, hein. Quoi qu'il en soit. Et ça, la réponse, elle est là, dans la table honorée, la table qui honore le nom de Dieu et qui respecte, finalement, la vérité qu'il nous a donnée. Parce que nous sommes dans un monde qui est impur. Il faut bien le dire, il faut bien le reconnaître. Et nous avons besoin de discernement. On s'aperçoit que de plus en plus dans les églises, nous manquons de discernement. Quelquefois, nous avalons des choses, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais moi, je pense qu'il faut que nous soyons crédibles et que tout n'est pas bon, tout n'est pas bien, et qu'il y a aussi une part où il faut savoir de ce qui vient du monde des esprits, l'esprit divin, l'esprit humain et l'esprit malin. Et ça, c'est un don que Dieu nous donne. Et l'Église qui perd cette notion, c'est une Église qui est en train de se perdre. Elle va devenir tout simplement une religion quelconque. Voilà. Il n'y aura pas de différence avec le reste des autres religions, même si elle a des spécificités. Mais je pense qu'il faut savoir où, véritablement, quelle est la nature des choses. Les choses terrestres, mais les choses célestes aussi. Vous savez, à un moment donné, il nous est dit, Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des principautés, des autorités et des esprits méchants dans les lieux célestes, dixit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6. Ouais. Et je crois que nous avons aussi besoin de revoir certains textes dans la parole de Dieu qui nous met en garde. Je voudrais maintenant, et je vais terminer, cette ignorance coupable de cette humanité, de ce monde, alors que nous avons une certaine connaissance, mais n'en soyons pas fiers. Restons humbles et modestes. Donc, ignorance coupable de l'humanité en errance, au regard des traditions religieuses et les amalgames avec le paganisme occulto-religieux. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vais choquer la conscience. Je ne veux pas choquer la conscience de personne. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous sommes sortis d'un système. Moi, je suis sorti d'un système. Et une des premières choses, quand on m'a offert une Bible et que je commençais à la lire, je me suis dit, j'ai fait des comparaisons. Je me dis, moi, on m'a enseigné ça. Et aujourd'hui, je suis en train de lire la Bible, le message de Jésus-Christ, et je voyais qu'il y avait véritablement eh bien, une montagne entre les deux. Une telle différence. Et là, à ce moment-là, j'ai pris la décision de suivre Jésus et de garder sa parole et de vivre de sa parole. C'est bien la différence. Alors qu'il y a des millions et des millions de gens qui sont encore prisonniers de cette servitude au niveau, finalement, de leur pensée, au niveau de leur mentalité, au niveau de leur croyance. C'est plus la foi spirituelle, c'est plus la foi dans la vérité de l'esprit, mais c'est la foi dans ce que les hommes ont écrit, dans ce qu'ils ont décrété. C'est le dogmatisme. C'est toutes ces choses. En disant, bien voilà, si vous vous soumettez à cela, eh bien vous serez sauvés. Non, on n'est sauvés qu'à travers Jésus-Christ, c'est tout. La Sainte-Seine, je l'ai dit tout à l'heure et j'y reviens, nous avons besoin de fuir l'idolâtrie. Fuir l'idolâtrie, fuir la table de la nourriture du monde et faire la différence. Je vous l'ai dit, la Sainte-Seine est une coupe de bénédiction, pas de malédiction. Et c'est le symbole de la rédemption au prix du sacrifice sanglant de Jésus. puisqu'on parlait de sacrifice sanglant de Jésus, le pain et le vin. C'est un symbole. Ce n'est pas l'Eucharistie qui nous dit que, eh bien voilà, tout simplement, eh bien, quelque part, c'est Christ qui est en chair dans le pain et dans le vin. Ce qu'on appelle la transsubstantation dans le monde catholique. Ça, c'est une fausse doctrine. Disons-le, parce que Jésus ne l'a pas enseigné. Faites ceci en mémoire de moi. C'est un mémorial. C'est pas parce que, voilà. Hein, et ça, c'est mental aussi. C'est mental. C'est l'unité qui rassemble autour du Sauveur qui est mort pour tous les hommes. Je finis. L'idolâtrie dans la communion et son partage. La table outragée, je l'ai dit. C'est la mise en contact avec une autre réalité invisible spirituelle, le monde ténébreux, qui nous est interdit, nous les chrétiens. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et on ne peut pas vivre n'importe comment non plus. C'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure la musique, la vitesse, les substances illicites et tout ça, parce que on est dans un monde où c'est tellement, on a accès tellement à ça, à cette boue, on pourrait peut-être dire. Alors il y a une alerte solennelle. On ne peut pas communier avec le monde. Jésus nous dit, et je le rappelle, il dit à ses disciples, dans je ne sais plus quel texte, c'est Jean dans chapitre 17, « Je ne te prie pas, Jésus prie Dieu, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal qui est dans le monde. » Et c'est ça ce qui est important. Et trop de chrétiens, même évangéliques, ont tiré un trait avec le monde en disant « Nous ne voulons pas avoir de rapports sociaux, de rapports de ceci, cela avec le monde. » C'est une erreur, parce que le Seigneur nous a envoyé être le sel de la terre. Il nous a donné d'être la lumière du monde et il nous a donné d'être ses disciples pour aller prêcher l'Évangile. Alors attention, parce qu'il y a des fausses conceptions. Hein. Non, nous sommes dans le monde, nous vivons dans le monde, mais sans l'esprit du monde. C'est tout à fait différent. Cette alerte, communier, nous est interdit avec le monde étranger. C'est l'un ou l'autre, nous devons choisir. Et au moment de la conversion, quand il y a quelqu'un qui se fait baptiser, pas des baptêmes à la petite semaine, quelqu'un qui s'engage, je veux suivre Jésus, je lui donne ma vie, je me convertis à Jésus, je me repens de mes péchés, je veux qu'il soit le seul Seigneur et le seul Sauveur de ma vie. C'est pas tantôt l'un, tantôt l'autre. Hein. Quand on est converti, on est converti. On ne sera jamais parfait. Il y aura toujours, finalement, eh bien là, des différences, parce que nous restons des humains, et nous restons sensibles, finalement, à l'appel du péché. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous devons persévérer jusqu'au bout. Nous choisissons l'un ou nous choisissons l'autre. Quand on n'est pas converti, on est avec l'autre. Quand on est converti, on est avec Jésus. On ne tergiverse pas dans tous les sens. Alors, le motif de conscience et l'examen, je crois que nous avons besoin... C'est peut-être hardi ce que je dis aujourd'hui, mais moi je pense que l'impur est à dénoncer et non pas à favoriser. Et même dans les églises, ne perdons pas la vision de la vérité qui nous est donnée dans la parole de Dieu. Vous savez, dans le veau d'or, ça a été quelque chose de terrible. Hein. Ça a été payé à un prix très, très dur. Hein. Saül, quand il va voir, après avoir combattu l'idolâtrie, retourne vers la cartomancienne, ou c'était plutôt la magicienne d'Endor. Hein. Il va payer de sa vie. Hein. Quand on a touché, finalement, à la grâce de Dieu et qu'on retourne de l'autre côté, avec tous les éléments qu'on a mis devant vous, eh bien, je pense que c'est quelque chose de grave. Je dois le dire. Ma petite expérience de pasteur depuis une quarantaine, vous l'avez entendu, mais je me répète. Mais une chose qui est certaine, nous, on a vu des gens, des frères, qui se sont convertis à Jésus-Christ, et à un moment donné, ils ont été emportés par une vague. Ils ont payé de leur vie, parce qu'ils sont retournés dans l'occultisme. Ne touchez jamais à l'occultisme. N'essayez pas de savoir l'avenir. N'essayez pas, c'est le Seigneur qui vous dit que chaque jour suffit sa peine. Et c'est lui qui va vous conduire. Nous marchons souvent comme des étrangers sur un terrain que nous ne connaissons pas. Mais n'essayez pas d'essayer de deviner, de chercher auprès de, de bonimenteurs, des gens qui trafiquent avec l'orgueil, avec l'astrologie. Faites attention, mes frères, nous allons arriver dans des périodes où ça va être généralisé, tout ça. Ça l'est déjà, on n'en parle pas trop, parce que c'est un petit peu honteux. Mais si je vous dis cela, c'est parce qu'il y a certainement des raisons pour l'avenir, probablement. Que les jeunes se gardent des musiques infernales, avec des gestes, avec un dévouement complet, même au niveau physique, même au niveau de la nature même des choses, où toutes les insignes sont à la gloire, à travers des têtes de mort, à travers l'évocation, les chants qui, quelque part, mettent Satan en évidence. Là, c'est aussi une table outragée. Oui, la table outragée. Toutes ces substances enivrantes, parce que les gens ne supportent pas la vie. La folie de tous les excès qui font des hommes non plus des créatures de Dieu, mais des êtres défigurés, et on le voit. Quelquefois, ça se voit. Il y en a qui sont pas très beaux. Peut-être que quand ils avaient 20 ans, c'était des beaux hommes ou des belles filles. Mais à la fin, c'est quand même, ils sont dégradés. Une dégradation. Parce qu'ils ne sont pas régénérés. Que Dieu nous bénisse. Alors, c'était un message que j'ai eu à l'occasion d'une circonstance particulière, et je me dis, il ne faut pas que je me taise là-dessus. C'est difficile, ça a été très difficile pour moi de le préparer, parce qu'on touche à des choses qui sont vraiment complexes, parce qu'elles font partie finalement d'une vision terrestre, mais d'une vision qui nous ouvre aussi certaines portes dans le ciel. Alors, croyez qu'il n'y a pas seulement qu'un monde physique, mais il y a un monde spirituel. Il y en a un bon, et il y en a un très mauvais, qui est en train de détruire notre société d'aujourd'hui. Et on va le voir dans les temps qui vont venir. Que Dieu nous bénisse. Amen, Seigneur. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, parce que nous avons le privilège ce matin d'être à la table de l'honneur, à la table de la vérité, à la table d'un prix payé par Jésus, qui véritablement a laissé couler son sang comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis il y a tout le reste que le monde peut offrir, que le diable offre, à travers tout ce que nous avons pu énumérer. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tu rendes ton Église sage, que tu lui donnes, Père éternel, la perspicacité nécessaire, non pas une perspicacité d'une prétendue sagesse ou de quelque chose qui appartiendrait en effet à une supériorité eh bien spirituelle, mais par ta révélation, où là tu nous ramènes à des choses basiques, où tu nous montres ce qui est bien, ce qui est mal. Tu nous montres ce qu'est la lumière et ce qu'est les ténèbres. Tu nous montres et tu nous dis ce qu'est la vérité et ce qu'est le mensonge. Seigneur, visite notre monde, s'il te plaît. Qu'il y ait en plus de conversions, Seigneur, des hommes, des femmes, des personnes âgées. Qu'il y ait parmi les jeunes, en effet, une prise de conscience que le monde est sale, que le monde est attirant, c'est vrai. Parce que la jeunesse, c'est la passion. La jeunesse, c'est l'envoûtement, quelque part. Parce que nous avons besoin de vivre une vie, c'est vrai. Nous vivons notre vie. Mais Seigneur, envoie ton esprit et donne ta grâce pour que le monde puisse se tourner vers Jésus-Christ et croire et garde en mémoire qu'il est mort pour le salut de l'humanité. Merci, mon Dieu. Amen.